France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Delcy Rodriguez, mardi dernier, la vice-présidente du Venezuela a prêté serment pour prendre la tête de la transition après la capture de Nicolas Maduro par l'armée américaine. C'est donc une fidèle parmi les fidèles qui tient les rênes du pays, secondée par ses principaux alliés, son frère George Rodriguez, président de l'Assemblée nationale, ou encore le ministre de la Défense, Vladimir Padrino López. De quoi doucher les espoirs d'un changement de régime porté par une population exsangue après des années de crise économique et de répression politique. Alors qu'est-ce que ce régime, le chavisme, qui semble se maintenir même sans son chef, a-t-il encore des liens avec l'idéologie portée par Hugo Chavez dans les années 90? Un invité ce soir pour en parler, Fabrice Andréani. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargé de cours à l'Université Lumière Lyon 2 où vous terminez une thèse sur les rapports des gauches françaises à la révolution chaviste au Venezuela. Merci d'être ce soir à Question du Soir.
Vengo con dolor.
Je me présente avec douleur en raison de l'enlèvement de deux héros qui sont otages aux États-Unis. Le président Nicolas Maduro et la première combattante, première dame de ce pays, Cilia Flores. Je jure sur mon honneur que je ne donnerai ni repos à mes bras, ni répit à mon âme, jusqu'à voir le Venezuela atteindre le destin qui lui revient, au piédestal d'honneur historique qui lui revient, en tant que nation libre, souveraine et indépendante.
La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, elle prêtait serment devant l'Assemblée nationale le 5 janvier dernier, Fabrice Andréani. Le clan Maduro reste donc au pouvoir malgré l'enlèvement du président par les États-Unis d'Amérique. Est-ce que cela signifie que le chavisme, dans sa forme politique, continue de vivre aujourd'hui au Venezuela ?
Disons que le chavisme, ce qu'on appelle le chavisme madurisme, en fait, dans la forme politique et politico-économique, surtout, qu'il a acquise assez rapidement dès, en fait, les premières années du mandat de Nicolas Maduro, dans cette forme-là, sous la forme, donc c'est pas le clan Maduro, mais c'est une alliance de différents clans. Le clan, c'est surtout le clan Maduro Flores, parce que sa femme était tout aussi puissante en fait en termes de réseau, d'intérêt économique et surtout d'intérêt économique aussi comme les autres, en fait, qui a été écarté. En fait, c'est un clan assez important et donc en fait les deux personnes qui sont maintenant les plus en vue, c'est-à-dire les frères Rodriguez, la frère et la sœur, et la sœur qui est présidente par intérim, représentée comme un clan en fait allié au clan Maduro Flores en fait, et se sont arrangés en fait avec l'administration américaine manifestement pour le déplacer en fait sans effusion de sang, enfin quasiment sans effusion de sang. Mais
elle est tout de même dans une situation compliquée aujourd'hui, Delcy Rodriguez, du point de vue encore une fois idéologique et politique. D'un côté, la contrainte de devoir coopérer avec les États-Unis, de l'autre, la nécessité pour elle personnelle de maintenir cette façade de l'idéologie chaviste qui reposait quand même essentiellement sur de l'anti-américanisme. Alors comment peut-elle composer avec ces contraintes ?
Elle peut le composer dans la même mesure où Maduro a réussi à composer avec ses contraintes depuis une dizaine d'années, sachant qu'il avait passé par-dessus bord en fait ce qui restait de légitimité, on va dire, démocratique, libérale, et électoral en fait dans le gouvernement vénézuélien, ayant depuis qu'il a perdu les élections législatives en 2015, sachant qu'ensuite il y a eu plusieurs phases sur lesquelles on peut pas tout revenir, plusieurs crises en fait avec des mobilisations, de manifestations très importantes, une accélération et enfin une répression en fait démesurée qui était inimaginable sous Chavez, même s'il y avait un peu de répression déjà sous Chavez. Il faut bien comprendre que depuis plusieurs années déjà, depuis de longues années en fait, l'idéologie est vraiment de façade. Elle est là surtout pour le décorum, mais on gouverne essentiellement avec des armes et de l'argent. Et pas avec de l'idéologie ou des élections, quoi.
Mettons la lumière justement sur le chavisme des zones origines, si l'on en fait la généalogie, qu'était le chavisme à ses premiers instants, à ses tout débuts? Comment définir même d'une façon théorique ce qu'est le chavisme?
Le chavisme, c'est un mouvement politique, coalition à la base en fait entre des loges militaires clandestines plutôt progressistes et nationalistes pour aller vite formées au sein de l'armée, des loges qui ont toujours existé traditionnellement dans l'armée vénézuélienne, qui ont perduré à la transition démocratique après la dernière dictature en 1958 et qui avaient en fait des liens aussi historiquement avec les guérillas, avec les différentes vagues de guérillas dont la plus importante est la première, celle de l'année 60, mais ensuite il y en a eu dans les 70 et 80 ensuite, qui avait des liens en fait entre les guérillas et les partis de gauche issus de ces guérillas ou de gauche radicale et des militaires en fait. C'est une alliance un peu, c'est une comment dire, une configuration un peu singulière en Amérique latine de cette alliance entre des militaires et des guerrieros et en fait et des anciens guerrieros. Et Chavez en fait avait tenté et est devenu connu en 92. Le premier acte public du chavisme, c'est de sortir de la clandestinité, en fait de sortir du bois par une tentative de coup d'État qui a été ratée en 1992, mais où Chavez est devenu un héros populaire en assumant en fait la responsabilité pleine et entière en fait de l'échec du coup d'État, et du coup aussi en prenant le leadership définitif en fait sur le chavisme, qui n'était pas forcément assuré à ce moment-là. Il y avait plusieurs figures en fait dans ce mouvement, et il gagne les élections en fait six ans plus tard. Et parce qu'il reste que 2 ans en prison, comme le régime est vraiment aux abois, en fait, il y a une crise de régime très forte. Il sort de prison au bout de 2 ans, et donc il est autorisé à se présenter aux élections, et il remporte les élections haut la main à travers une coalition alliant en fait son ex-mouvement militaire clandestin, qui devient un parti, avec différents petits partis de gauche, en fait, qui n'avaient jamais réussi, de gauche radicale, qui n'avaient jamais réussi à avoir une place très importante à côté des sociaux-démocrates et des sociaux-chrétiens ou des démocrates chrétiens qui géraient le pays de manière alternée depuis les années 60.
Vous avez remonté très très vite ce fil historique et l'ascension politique d'Hugo Chavez, Fabrice Andriani. Il faut quand même nous expliciter un autre terme qui revient très très régulièrement lorsqu'on parle de chavisme, c'est le bolivarisme. Hugo Chavez se réclamait de la révolution bolivarienne, le bolivarisme qui désigne une diversité là aussi un peu informe de pensée et d'idéologie. Alors comment définir le bolivarisme dont se réclamait Hugo Chavez ?
Plutôt axé là sur le genre de bolivarisme dont se réclamait Chavez, qui est plutôt le bolivarisme qui commence à pencher plutôt vers la gauche avec justement les vagues de guérilla continentales en fait dans les années 60. Et vous avez différentes guérillas, et principalement en Venezuela mais pas seulement, aussi en Colombie évidemment, qui se revendiquent en fait de l'héritage de Bolivar, qui était l'union en fait des nations nouvellement indépendante au début du 19e siècle, en fait l'union en une seule grande nation confédérale ou fédérale, plus ou moins centralisée, et notamment le projet de, enfin ce qu'on a appelé la Grande Colombie, c'est-à-dire ce qui correspondait ce qui serait actuellement comme pays le Venezuela plus la Colombie plus l'Équateur, et avec même la Bolivie et le Pérou sur la fin du règne, enfin sur la fin de avant la mort de Bolivar, les dernières années après la lutte
d'indépendance. Si je résume avec mes termes, est-ce qu'on peut synthétiser le bolivarisme comme étant une idéologie qui rassemble l'unité de l'Amérique latine, la dimension anti-impérialiste hein, à l'égard des Européens d'abord et des États-Unis ensuite hein, d'une façon vindicative, et enfin une forme d'adoration de la liberté pour ce qu'est la liberté politique?
Il y a une forme, justement, la forme d'adoration de la liberté, c'est le Bolivar plutôt qui est revendiqué par les libéraux. Historiquement, le Bolivar n'est pas forcément une figure spécifiquement de gauche. C'est un progressiste pour son époque qui mène une révolution bourgeoise. C'est un peu comme ça qu'il était perçu d'ailleurs par les historiens marxistes qui ont réinvesti l'étude du bolivarisme autour des années 40, 50, 60 au Venezuela et ailleurs en Amérique latine. Il y avait un bolivarisme de droite aussi. aussi, même de droite dure, même un bolivarisme qui se revendiquait de l'alliance historique avec l'Espagne. Enfin, Bolivar a été vraiment mélangé à toutes les sauces. Mais effectivement, il prend une inclinaison beaucoup, beaucoup plus à gauche, beaucoup plus anti-impérialiste, et notamment de solidarité avec la révolution cubaine, parce que la révolution cubaine a revendiqué la figure de Bolivar assez tôt, autant, enfin presque pas autant, mais presque autant que la figure de José Martí, qui est le père de l'indépendance cubaine.
Lorsque, pardonnez-moi, vous êtes à distance, lorsque Hugo Chavez est devient président de la République bolivarienne du Venezuela le 2 février 1999, comment traduit-il cette idéologie dans les faits, du point de vue de la politique publique, là encore? Que devient le chavisme en acte?
Le chavisme en acte, déjà, il convoque une constituante. Il convoque une assemblée constituante. Bon, dans des termes qui sont controversés à l'époque, mais il parvient à convoquer de manière à peu près démocratique une assemblée constituante. Son parti et les partis alliés parviennent à obtenir une hégémonie dans l'assemblée constituante. Et très rapidement, fin 99, une nouvelle constitution qui se veut plus participative, plus à l'écoute des différentes revendications des mouvements sociaux, des mouvements pour les droits humains, des mouvements aussi écologistes, également des mouvements indigènes, est mise sur pied. Et c'est là justement qu'ils rebaptisent le pays République bolivarienne du Venezuela. En fait, historiquement, tous les Vénézuéliens sont toujours revendiqués bolivariens, mais lui a vraiment remis cette notion, en fait, au cœur de son projet politique. C'est réapproprié, en fait, si vous voulez, de manière partisane, un symbole politique qui était partagé un peu par tous les bords politiques à l'époque. Et en fait, cette idéologie, si vous voulez, enfin, cette vision, se traduit par différentes choses. Sur le plan intérieur, il y a l'idée, en fait, donc de relancer, en fait, une démocratie, en fait, plus participative. Mais en fait, cette idée d'une démocratie plus participative, elle passe très rapidement aussi, et en même temps de manière indissociable, dans l'esprit de Chavez, par la réconciliation entre le peuple et son armée. Chavez, en fait, vient d'une loge clandestine militaire, mais en fait, il veut, en quelque sorte, assurer la rédemption de l'armée, qui est très critiquée à l'époque, qui est très dévalorisée. Pourquoi? Parce qu'elle a participé à la répression, en fait, des grandes émeutes anti-néolibérales qui avaient eu lieu 3 ans avant son coup d'État, en 89, qui s'étaient soldées par des milliers de morts, des émeutes contre un président social-démocrate, Carlos Andrés Pérez, qui avait entamé un programme d'ajustement structurel, un programme néolibéral, à rebours du programme sur lequel il avait été élu quelques mois plus tôt. Donc, en fait, Chavez, le projet, c'est de remettre en place une démocratie plus participative, et de redémocratiser, en fait, l'État, et de remettre sur pied, en fait, l'État, le pétro-État Providence, qui avait existé tant bien que mal, contrairement à une vision un peu simpliste, qui avait existé dès les années 60, années 60, 70, même une bonne partie des années 80, et qui avait permis, en fait, un niveau de vie au Venezuela qui était incomparable par rapport aux autres pays, et surtout une démocratie à peu près fonctionnelle, même s'il y avait évidemment des excès dans la répression des guérillas, qui, elle, pariait plutôt sur un modèle, sur une prise de pouvoir à la cubaine.
À ce moment-là, Fabrice Andréani, que reste-t-il du socialisme dans le chavisme? On pense évidemment aux nationalisations des grandes entreprises vénézuéliennes dans le courant des années 2000, mais excepté cela, excepté les nationalisations?
Il y a même beaucoup de nationalisations sur lesquelles Maduro est revenu en ouvrant plus de place aux concessions. Il y avait aussi les projets de coopératives. Il y avait aussi tout un appui, si vous voulez, à une forme, comme je dis, de démocratie participative, la démocratie communale au niveau local, avec de l'injection d'argent, en fait, dans des projets qui étaient discutés démocratiquement dans les quartiers populaires. En fait, tout cet appareil et aussi des missions, en fait, aussi avec une dimension participative de santé locale, de santé décentralisée au niveau des quartiers populaire, de santé et d'éducation, assez important, et de logement. Et en fait, tout cet appareil-là a été largement alimenté, en fait, par les revenus extraordinaires tirés du boom pétrolier record qui a eu lieu à partir de 2003, qui a duré de manière quasi ininterrompue jusqu'à l'arrivée de Maduro. Et en fait, tout ça a été de moins en moins soutenable à mesure, en fait, avec la chute des cours du pétrole. Et puis aussi du fait que quand Chavez était déjà en place, en fait, il y a déjà eu, à partir du milieu des années 2000, quand on sort d'une longue crise en fait d'affrontement entre gouvernement et opposition, où il y a une tentative de coup d'État quand même contre Chavez en 2002, de laquelle il survit, où il est remis en selle par des millions de personnes dans la rue et par les militaires aussi, et aussi par la faute de l'opposition qui ont prétendu dissoudre tous les pouvoirs publics et mettre à la tête le chef du patronat. En fait, dans cette dynamique-là, qui était une vraie dynamique révolutionnaire, au sortir de cette dynamique, vous avez très vite en fait une stabilisation en fait de la configuration politique et politico-économique avec des pactes qui sont passés avec une partie du patronat. Malgré les vagues de nationalisation, malgré la réforme agraire, malgré la reprise en main par le gouvernement de l'entreprise pétrolière nationale PDVSA, vous avez aussi en même temps, si vous voulez, toute une série de clans qui commencent à s'installer en fait autour de Chavez et où en fait, comme la loyauté prime sur tout, comme le but c'est de se maintenir quand même au pouvoir, vous avez très rapidement des pratiques de corruption qui sont pas inédites, mais qui sont d'une ampleur tout à fait inédite en fait, un espèce de remake de ce qu'on avait vu avec le boom pétrolier des années 70 déjà, mais de manière beaucoup plus grave, avec un sous-investissement chronique en fait, à la fois dans l'entreprise pétrolière.
Alors, justement, à cette fin du mandat de Hugo Chavez, lorsque Hugo Chavez décède d'un cancer en 2012, quel est son bilan du point de vue socio-économique, ses politiques publiques déployées pendant plus d'une décennie, qu'ont-elles créé, notamment en termes d'endettement du pays et de pauvreté ?
Elles ont fait quand même chuter drastiquement la pauvreté entre 2003 et 2008, qui ensuite s'est stabilisée. Ensuite s'est stabilisée, cette chute n'a pas continué, mais elle a quand même fait chuter de moitié. On arrivait à des niveaux de pauvreté, on va dire, de trentaine de pourcents, ou un peu moins. Ça n'a pas pu se stabiliser parce que justement, il y a un niveau d'endettement qui est trois fois plus fort que quand il est arrivé au pouvoir. Que en fait, malgré la hausse des prix, en fait, les programmes sociaux et les programmes de logement notamment étaient maintenus au prix, en fait, si vous voulez, d'endettement croissant, y compris auprès de la Chine, qui est toujours en cours, hein, qui paye encore en échange de livraison de pétrole quasi gratuite. Et donc, en fait, ça a été très difficile à maintenir. Mais tout ça parce qu'il n'y a pas eu, en fait, comme dans beaucoup de pays qui ont été gouvernés par les gauches de cette époque-là, de réformes fiscales vraiment fortes, en fait, si vous voulez. Donc, en fait, ce qui a permis une redistribution massive, c'est essentiellement l'augmentation des prix, enfin, la hausse des prix du pétrole, la hausse faramineuse des prix du pétrole, ce qui a permis en fait une redistribution tous azimuts, mais y compris à des secteurs en fait, si vous voulez, enquistés dans l'État, corrompus et qui étaient en fait proches du gouvernement. Ensuite, ça s'est étendu aussi à une partie du patronat privé qui jouait le jeu bon an mal an et qui du coup, pour continuer à avoir des partenariats avec l'État, devait aussi verser des pots de vin, etc. Donc en fait, tout ça n'a pas tenu très longtemps une fois que les prix du pétrole ont chuté.
Sur la dimension autoritaire du régime, est-ce que tout était déjà en germe dans le chavisme, dans la façon qu'avait Hugo Chavez de conduire le pays? Est-ce que Nicolas Maduro n'a fait qu'accélérer les choses de ce point de vue-là, ou bien l'autoritarisme est une création de Nicolas Maduro? Mais j'en doute.
Non, alors c'est facile de dire que tout était déjà en germe rétrospectivement, mais en même temps, alors certains éléments étaient en germe, il y avait des façons parfois de pas de contourner, pas d'annuler, mais en tout cas de contourner ou de minimiser les implications de certaines rares défaites électorales, parce que Chavez a quasiment gagné scrutin sur scrutin, mais il y avait des façons de, par exemple, quand l'opposition gagnait la mairie de la capitale, en fait, on créait une supra-intendance directement sous tutelle du gouvernement fédéral, à laquelle on transférait en gros les compétences et les fonds de la mairie. Et ça a été fait avec des gouvernorats aussi, qui ont été perdus par le chavisme, du moment qu'ils étaient considérés justement stratégiques, au nom justement du bolivarisme et de la lutte contre les États-Unis, dont on a toujours dit que à un moment ou un autre, suite à leur appui au coup d'État en 2002, ils ne démordraient pas et qu'ils finiraient par essayer d'intervenir d'une façon ou d'une autre. Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, il y a une forme de continuité, mais en même temps, personne n'imaginait, ni même les opposants les plus farouches, ni même les opposants qui criaient au castro-communisme à l'époque de Chavez, quand il s'alliait de plus en plus avec une proximité de plus en plus forte avec Cuba, en fait, personne s'imaginait que la répression prendrait l'ampleur qu'elle a prise à partir des manifestations de 2014, et puis ensuite à partir de la défaite cuisante en fait, du chavisme aux législatives de 2015.
Je voudrais vous faire entendre la voix d'Alfredo Romero, président de l'ONG Foro Penal, à propos des emprisonnements politiques au Venezuela.
Nous autres réunis dans cette salle aujourd'hui, nous ne sommes pas bien nombreux comparés aux 773 prisonniers politiques qui croupissent encore en prison. N'oublions pas non plus les 15 000 personnes arrêtées pour des motifs politiques divers et variés. Ce sont des chiffres qui fluctuent de semaine en semaine. Ils emprisonnent, ils libèrent et emprisonnent à nouveau. Cette semaine, ce sont ces jeunes gens ici présents qui ont été libérés. Mais depuis, d'autres ont été arrêtés. Autre point important, aucun des prisonniers politiques dont les proches sont dans cette salle n'ont eu droit à être défendus par un avocat.
Vous avez parlé, Fabrice Andriani, de la répression violente du régime de Nicolas Maduro. Maduro qui se réclame encore et toujours du chavisme, de la révolution bolivarienne. Mais que reste-t-il aujourd'hui en acte de ces concepts ? Maduro a-t-il été vraiment chaviste, tel qu'Hugo Chavez le percevait ?
Maduro l'a été pendant longtemps, vu que c'était son ministre des Affaires étrangères qui a conduit en fait sa politique étrangère. C'est le ministre qui est resté le plus longtemps en poste, en fait, de 2006 à 2013. C'est son ministre des Affaires étrangères. Il a conduit toute sa politique étrangère d'ouverture et de coopération renforcée avec les pays du Sud, pas seulement latino-américains, mais également des pays arabes, enfin également avec la Chine, enfin toute une ouverture à ce que Chavez mettait en avant comme le monde multipolaire, comme une forme de contrebalancer en fait l'hégémonie américaine en misant sur des alliances, non pas pour virer complètement les intérêts américains, mais en tout cas pour les contrebalancer, pour les mettre en concurrence avec non seulement les intérêts des entreprises européennes pétrolières, mais aussi des entreprises chinoises, entreprises russes, et voilà. Donc ça, de ce point de vue-là, Maduro a continué cela. Dire qu'en fait, il y a toujours eu plusieurs chavismes, il y a toujours eu un chavisme plus populaire, plus de quartier, alors avec des frontières qui ne sont pas du tout étanches, un chavisme étatique, en fait, avec des gens qui pouvaient être, des gens qui venaient des quartiers et qui ont eu des postes dans l'administration, mais un chavisme plus bureaucratique, on va dire, soumis complètement à la discipline du parti, qui devient peu à peu un parti-État sous Maduro, et soumis déjà sous Chavez à l'impératif des campagnes électorales, donc à la discipline, à l'absence de critique. Donc ça existait déjà. Il y avait déjà une forme de répression, en fait, si vous voulez, de la gauche interne au mouvement Chavez, mais surtout à l'extérieur du mouvement Chavez, la gauche dissidente, les dissidences ouvrières, paysannes, indigènes, qui estimaient que la constitution n'était pas suffisamment appliquée, qui estimaient qu'il y avait ce qu'on appelait déjà à l'époque une droite endogène qui faisait des affaires sur le dos de la révolution, etc. Donc en fait, tout ça existait déjà. La grosse différence, c'est que depuis 2002-2003, Chavez n'avait pas eu affaire à des mouvements de masse de la forme qu'ont pris ceux d'opposition à partir de 2014, 2015, 2016, et que surtout, en face, quand il y avait des mouvements de masse d'opposition dans les années 2000, il y avait aussi un mouvement de masse chaviste qui pouvait occuper la rue aussi de l'autre côté, ce qui n'est absolument pas le cas depuis 2014 au Venezuela. Vous n'avez pas eu... Alors, vous avez des groupes civils armés qui répriment les manifestations, vous avez des manifestations organisées où c'est des fonctionnaires qui sont plus ou moins obligés d'y aller. Il n'y a pas que des gens qui sont obligés, il y a aussi des gens qui y croient, il y a encore un noyau dur qui y croit encore, qui peut faire peut-être 10-15% à tout casser, mais si vous voulez, ils n'ont pas du tout le mouvement de masse qu'ils avaient avant. Et puis surtout, en fait, tous les mécanismes en fait de participation locale qui étaient plus ou moins aidés, enfin qui étaient aidés de plus ou moins près par l'État, certes subordonnés au gouvernement, mais aidés par l'État avec une certaine marge d'autonomie dans pas mal de projets communautaires locaux ou ruraux ou autres. Ben en fait, la plupart de ces dispositifs en fait sont aujourd'hui soit des dispositifs plus ou moins Potemkin en fait pour montrer que le socialisme existe encore, soit simplement pour est-ce qu'il y a la distribution alimentaire qui est pour la sécurité citoyenne, etc.
En quelques mots, pardonnez-moi, vous êtes encore une fois à distance, parce que j'ai une question importante et il nous reste malheureusement 45 secondes que je souhaitais vous poser. Que reste-t-il du chavisme à l'étranger, notamment dans les gauches françaises? Malheureusement, on n'a que 30 secondes, mais je vous cède la parole.
Du chavisme comme mouvement organique, il reste vraiment pas grand-chose.
Mais l'intérêt, en tout cas, pour le chavisme dans les gauches françaises, est-ce que c'est d'abord un intérêt pour l'anti-américanisme que portait le chavisme ?
Aujourd'hui, c'est plus vraiment qu'un intérêt pour l'anti-impérialisme, anti-américain, et c'est cette idée que c'est le gouvernement qui résiste un peu à l'image de Cuba, où chacun sait que bon, il y a sans doute un caractère, que le gouvernement a un caractère sans doute autoritaire, voire très autoritaire. Bon, c'est de fait le gouvernement le plus autoritaire et mafieux de l'Amérique depuis 10 ans. Mais en tout cas, il y a cette idée que malgré tout ça, bah, en fait, il faut le défendre parce qu'il tient tête à l'Empire.
Merci beaucoup de cette dernière réponse synthétique, d'autant qu'elle est au cœur de votre thèse. Merci beaucoup Fabrice Andréani, chargé de cours à l'université Lumière Lon 2. Vous terminez justement une thèse sur les rapports des gauches françaises à la révolution chaviste au Venezuela. Et merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission, Juliette Moëlic, Bertie Bourdon, Rodi Eken, à la réalisation Léa Racine.